When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Aurez, le directeur développement durable de Novaxia, l'entreprise d'investissement dans le recyclage urbain, mais aussi la première société à mission du secteur de l'immobilier. Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Merci beaucoup, bonjour.
Bonjour, alors est-ce que tu peux un peu nous raconter ce que fait Novaxia? Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une entreprise qui est très connue du grand public, donc c'est hyper intéressant.
C'est un groupe d'investissement immobilier qui a été fondé il y a 15 ans par Joachim Hazan, avec deux métiers. Particulier dans l'immobilier. D'abord, l'investissement. Ce qu'on fait, c'est une sorte de crowdfunding. On réunit des dizaines de milliers de particuliers qui, à travers leur assurance vie, par exemple, épargnent à partir de 100 euros pour leur retraite, souvent, dans des fonds. Et ils recherchent souvent des fonds responsables qui associent l'impact et le responsable.
Des fonds ESG, hein.
C'est comme ça qu'on le fait. Donc, premier métier, c'est la collecte d'épargne auprès de particuliers. Et le deuxième métier, c'est le développement immobilier. À partir de cette épargne, qu'est-ce qu'on fait en termes immobiliers, justement, pour associer l'impact et un objectif de rentabilité.
On en parlait en plus, là, juste avant, en off, l'immobilier, c'est quand même un des secteurs les plus polluants et un sur lesquels on a le plus, d'ailleurs, de pouvoir d'action, en fait.
Totalement. On pourrait se demander, mais que vient faire une entreprise d'investissement et d'immobilier à parler de RSE? Au contraire, nous, ce qu'on pense, c'est justement là où il y a le plus de choses à faire et où il y a d'immenses choses à faire. On va pouvoir y revenir. Ce qu'on fait, nous, chez Novaxia, c'est le recyclage urbain. C'est tout ce qu'on fait, c'est du recyclage urbain.
Il n'y a pas de nouvelle construction, en fait. Vous reprenez.
En fait, ce qu'on fait, c'est
du reconditionnement.
C'est une sorte de reconditionnement. On connaît tous le recyclage de téléphones maintenant, de nos lave-vaisselles, de nos réfrigérateurs. Et il y a une chose qu'on ne recycle pas, et qui est pourtant bien là, c'est le foncier qui est déjà artificialisé, c'est-à-dire des mètres carrés où il y a déjà du béton. Vous avez des mètres carrés, donc des morceaux de ville, des friches industrielles aussi, des bureaux vides, qui sont là, qui sont en fait une ressource, tout comme le plastique contenu dans nos appareils électroménagers ou autres. Et ce qu'on se dit chez Novaxia, c'est qu'on peut recycler l'immobilier, comme on peut recycler nos téléphones, nos réfrigérateurs. Nous, on recycle l'urbain.
Donc en fait, tu n'as pas du tout toute la partie éco-conception, on va dire, parce que toi, tu ne t'occupes pas de la conception. Tu vas par contre reprendre le déjà là. Donc même s'il est à partir de béton, ça c'est pas grave. Toi tu veux juste pas gaspiller finalement.
Alors on veut vraiment appliquer les 3 R. Réduire, réemployer, recycler. Donc dès qu'on peut, on essaye de réduire la consommation de béton notamment, donc en gardant la structure des bâtiments.
Et puisqu'il faut rénover.
Et on rénove.
4 R, je t'en ai rajouté un.
Merci, exactement. Nous on a aussi ce rénover. Donc on réduit en essayant de pas reconstruire à nouveau. Il y a certaines friches industrielles ou friches polluées où on ne peut pas, bien sûr, garder, où il faut dépolluer, ou des fois aussi, il faut déconstruire le bâtiment.
Comment, par exemple, quand tu parles de friches polluées, parce que moi, je connais pas tout ton secteur.
Oui, alors, des exemples, très concrètement, en périphérie d'une grande métropole, Paris, en l'État, il y avait une friche polluée au Pierre-Haleine, qui était une ancienne friche de EDF, qui était là, en cœur de ville, à 10 minutes du métro, dans une zone où il y a une pénurie de logements qui est énorme. À l'époque, il n'y avait pas encore ce type d'acteurs comme Novaxia pour aller acheter grâce à des fonds issus de l'épargne de particuliers. Donc on l'a acheté et on l'a dépollué et ensuite on a construit un immeuble aux dernières normes énergétiques de logement.
Donc en fait, quand c'est comme ça, il y a des experts qui vont quantifier un peu l'état de la pollution, de la zone.
Oui.
Et comment tu dépollues une zone?
Alors on fait appel aux spécialistes, à des agences de dépollution et puis après il y a toutes les vérifications sanitaires, etc.
Okay.
Pour vérifier.
Mais ça doit être des coûts énormes.
Alors c'est des coûts. Mais le modèle financier est très simple, et ce qui est génial dans notre modèle, c'est que l'impact, il est au cœur du modèle économique. C'est-à-dire que ce qu'on fait, nous, c'est très simple, hein, financièrement. On regarde le prix du bureau vide. Et il y en a de plus en plus, notamment avec le télétravail suite à la pandémie. Pour te donner une idée, il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux vides à l'heure actuelle en Île-de-France.
Ça me fait mal au cœur hein, quand tu dis ça et que je vois des gens dehors. En
voilà,
fait, tu vois,
et ben on va y venir. Juste 4 c'est millions, là possible. Où on pourrait ouvrir la porte, ce sont des bureaux vides qui sont là depuis des fois plusieurs années. Il y avait 3 millions pré-Covid, donc ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Seulement, il y a une accélération de ce stock de bureaux vides et nous, on le voit ça comme une ressource. Pour nous, c'est notre ressource. Et donc, ce qu'on fait, c'est on regarde le prix des bureaux vides et on regarde là où il y a une demande de logement. Ça, c'est notre premier objectif de recyclage urbain auprès de nos investisseurs. On regarde et souvent, il y a une différence. Et donc, on peut fabriquer du logement pour tous, du logement social. Ça dépend, en fait, des territoires. Et puis, on achète du bureau avec une décote et puis on fabrique du logement. Et c'est cette différence qui est notre modèle économique.
Quand tu parles de bureau vide, il n'y a même pas de loyer qui est payé. En fait, c'est vraiment laissé à l'abandon.
C'est laissé littéralement. Alors, je vais
c'est
même te
incroyable.
Dire, c'est même gardienné. C'est-à-dire que des personnes, parfois, soit c'est muré, soit il y a des gardiens qui sont là pour garder des bureaux vides. Et il y en a 4 millions à l'échelle de l'Île-de-France. Mmh. Alors pour nous, c'est une ressource qui est géniale. C'est un peu comme si je te disais, tu as un stock de matières premières pour aller fabriquer tout un tas de choses dont on manque. Et nous, c'est là, c'est à portée de main. Et grâce à la collecte d'épargne, grâce à l'investissement de ces épargnants qui y croient, eh bien, on peut en fabriquer de plus en plus. Donc, on fabrique des milliers de logements aujourd'hui dans toutes les métropoles françaises. Et du logement, zéro artificialisation des sols. C'est-à-dire du logement qui ne va pas se mettre sur un champ de blé, qui ne va pas se mettre sur une forêt, puisqu'on recycle l'urbain. Et aujourd'hui, on entend tous parler, tu sais, des zones agricoles à défendre, notamment. À 70%, ce qui bétonne les sols agricoles en France, à 70%, c'est la construction de logements. Et donc, en fait, on a une sorte de contradiction aujourd'hui, puisqu'il y a une pénurie de logements qui est énorme. C'est 100 000 logements qui manquent chaque année en France.
Et on a 4 millions de vides.
Et 4 millions de mètres carrés. Donc, il y a une opportunité. Et en même temps, enjeu social, donc, et en plus enjeu environnemental, on voit qu'il y a des champs qu'il faut préserver, de la nature, de la biodiversité qu'il faut préserver. Donc, l'une des solutions, en tout cas, celle qu'on défend, c'est le recyclage urbain.
Mais tu vois, en fait, je trouve que c'est tellement, encore une fois, du bon sens. Mais je me demande comment l'humain... peut être aussi, excuse-moi, mais débile quand même parfois.
Alors, en tout cas, on devient tous collectivement de plus en plus intelligents.
Non, mais c'est vrai que tu as raison de voir ça comme ça, l'intelligence collective. Mais heureusement, en fait, heureusement juste de remettre du bon sens dans, et de l'humain, parce qu'il y a de l'humain. Parce qu'il y en a qui préféraient garder un truc muré et fermé parce qu'ils ne veulent pas héberger ou tendre la main à quelqu'un.
Totalement,
quoi, en fait.
Et ça me permet de te signifier aussi une autre pratique qu'on a. C'est que comme on achète ces bureaux vides, souvent, ils sont vides entre 12 et 18 mois, puisque le temps de déposer un permis de construire, d'écouter les associations environnantes, les voisins, les entreprises locales, les associations, les élus, il s'écoule entre 12 et 18 mois, entre le moment où tu achètes un bâtiment de bureau vide et le moment où tu vas pouvoir commencer les travaux pour rénover ou déconstruire et construire du logement. Sur ces 12 à 18 mois, on récupère donc les clés d'un bâtiment souvent gardienné pour nos investisseurs. Ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années, on a été le premier acteur privé à le faire à l'échelle industrielle, puisqu'on le fait systématiquement, on fait de l'occupation temporaire auprès d'acteurs à impact social. Donc très concrètement, très souvent, c'est le jour même où on récupère les clés, on travaille en amont et on le prête à une association gratuitement.
Comme Aurore, par exemple.
Comme Aurore, on a travaillé avec Aurore, on a fait un centre d'hébergement avec Aurore. Quand ça s'y prête, ça peut être de l'hébergement d'urgence, ça peut être des coopératives d'artistes. On a plusieurs occupations temporaires avec le Secours Populaire Français à l'heure actuelle. On a tout un tas, en fait, d'innovations sociales qui sont là, dans tous ces mètres carrés qui sont vides, qui sont en phase transitoire. Et nous, alors, on pourrait se dire, mais pourquoi on fait ça? Ben, déjà, on préfère se lever le matin, je suis sûr que nos investisseurs aussi, en se disant qu'on le prête gratuitement. Deuxièmement, c'est un laboratoire qui est formidable d'innovation sociale. Parce que ces acteurs-là, souvent, le loyer, c'est 40% de leurs charges. Une association, pour aller en centre-ville, 40% de ses charges, c'est le loyer. Et donc, on lui enlève 40%, et une association qui est très engagée, elle réinvestit tout de suite. Et donc, il y a des modèles humanitaires, des modèles associatifs qui s'inventent dans ces phases-là. Et ensuite, on travaille avec ces associations pour les pérenniser, soit dans une partie des immeubles futurs, soit dans le cadre de concours, par exemple. On en lance actuellement un tiers-lieu comme ça, chaque mois, en France.
Trop bien.
Donc là, on en a 17. 17 lieux sont des lieux absolument géniaux, très visuels, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, où les gens inventent sans une contrainte de loyer et où il y a de l'impact social. Pour donner un chiffre, en un an, l'année dernière, on a aidé 120 000 personnes qui sont passées dans ces immeubles qui auraient été sinon vides. Et donc, on a cette occupation temporaire systématique. On a créé une équipe dédiée, un poste qui n'existait pas en France. Et on est tous convaincus chez Novaxia que dans 10 ans, quand tu seras étudiant en urbanisme, tu verras, comme tu le disais, comme un non-sens absolu de ne pas faire ça systématiquement. Et de plus en plus, ça se généralise, et tant mieux, parce qu'il y a quelque chose qui relève uniquement de l'ordre du blocage culturel, du frein culturel. Et une fois que c'est environné juridiquement, qu'on a des compétences, ça se développe très, très vite. Et il y a plein d'innovations qui se font. On dit dans notre jargon qu'on a plein de stations S qui sont un peu partout, qui sont sur les territoires. Et plein de gens inventent plein de choses.
Et c'est quoi alors les next steps pour Novaxia ?
Alors, la next step, elle est résumée en un mot, c'est la diversification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On a une ressource qui est là, qui est encore de plus en plus grande, qui est le stock d'immobilier obsolète. Donc, des friches, des bureaux vides, notamment. Dans beaucoup de cas, on peut en faire du logement. Parfois, le logement ne convient pas où il y en a déjà, et il y a moins de pénurie, mais il y a plus besoin d'activité économique. Et donc, ce qu'on vient d'annoncer il y a une semaine, c'est un partenariat pour développer des centres d'innovation en France autour des sciences de la vie. Alors, je vais y revenir. Donc, on a un stock de bureaux vides. Soit on en fait du logement, soit pour nos investisseurs, on va en faire des laboratoires de recherche, des centres de production de médicaments ou des incubateurs de PME dans ce domaine-là. Donc, on a signé un partenariat et on va investir 2 milliards d'euros sur les prochaines années en comptant à la fois l'investissement et puis le levier bancaire. Donc, c'est 1 milliard plus 1 milliard pour développer ça en France. Dans toute la thématique des biomédicaments. Et on a vu que ça nous manquait ces dernières années. Et donc, les pouvoirs publics, nationaux, européens, locaux, ils vont à fond. Les capitaux privés aussi arrivent.
Il y a beaucoup plus d'investissements, de toute façon, dans l'impact et global.
Exactement. Et l'innovation et le talent, on l'a en France. Donc, toutes les planètes sont alignées. Et quand on demande à tous ces acteurs, à ces chercheurs qui partent souvent aux États-Unis, donc on a fait des voyages d'études, on a regardé, ils nous disent « mais nous, on aimerait juste être en cœur de ville ou en périphérie, selon les activités, mais on aimerait être dans les villes pour développer des laboratoires notamment ». Et on s'est dit « mais on a une solution qui est là, on a une expertise ». Donc on a signé un partenariat et on va développer ça à très grande échelle en France. On a déjà plusieurs projets de ce type. Donc pour te répondre, on va recycler l'urbain encore plus, soit en faisant du logement, soit en faisant de l'activité, de l'innovation, pour développer des incubateurs partout dans toutes les grandes métropoles.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas réussir à recycler un endroit justement parce que trop pollué ou parce que... Et qu'est-ce que ça devient quand c'est comme ça ?
Alors, il y a des immeubles qu'on n'achète pas pour le compte de nos investisseurs parce qu'on se dit que les coûts sont trop élevés ou que la sortie ne va pas être forcément du logement ou du life science, des sciences de la vie. Donc là, on se dit qu'on n'y va pas. Maintenant, sur ceux où on va, il y a toute une analyse qui est faite, tant financière que extra-financière. On a des ingénieurs environnementaux qu'on envoie systématiquement sur site, qui étudient et qui analysent tout le site. Donc, pour te répondre, non, pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais en 15 ans, on n'a pas eu d'opération. Si tu veux, on se disait, mais tout est impossible. On a aussi cette valeur de l'agilité, de l'audace, où on essaie toujours de trouver un plan B, un plan C, un plan D. Et il y a toujours quelque chose à faire quand on est dans une zone proche des transports, en ville, en France. Il y a toujours une sortie positive qu'on peut trouver.
Tu me parlais aussi de l'impact justement du bâtiment sur les terres agricoles. Est-ce que parfois c'est possible de revenir en arrière et de détruire quelque chose de construit, de remettre des champs ? Enfin, je sais pas.
Alors oui, et c'est même ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a regardé toutes nos... Comme on n'achète que de l'urbain déjà bétonné.
Ouais.
De manière positive, des fois, on désartificialise. C'est-à-dire que tu enlèves le béton qui est déjà présent. Et on achète des fois des parcelles immobilières où c'est uniquement du béton. Donc, on enlève certaines parties du béton et là, on remet de la pleine terre. Donc, c'est 5 à 6 mètres de terre pour que les arbres et toute la biodiversité puissent se développer. Et si tu regardes toutes nos opérations, donc on a une centaine d'opérations aujourd'hui en cours en France et maintenant un peu en Europe aussi. Sur la centaine d'opérations, on a plus désartificialisé, on a plus remis de la nature que bétonné. Et donc, on a produit de manière nette en France, des espaces avec de la biodiversité.
Oui, mais c'est l'enjeu aujourd'hui. C'est ce qui va nous permettre de décarboner. Enfin, c'est remettre de la biodiversité.
Exactement. C'est remettre de la biodiversité en ville.
Oui.
Et on aime beaucoup, bien sûr, les murs végétaux. Mais ce n'est pas là où vont se développer forcément tous les biotopes nécessaires. Et donc, il y a besoin de ces espaces littéralement de nature en ville. Et donc, on produit de manière nette des espaces verts. Mais des espaces verts avec de la nature, avec des arbres et de la biodiversité reconnue au sens légal du terme.
Est-ce que tu aurais envie d'ajouter des choses qu'on n'aurait pas abordées ensemble ?
Tout ce que je te dis est en cours. Donner des bâtiments qui sont vides à l'heure actuelle, ça n'a pas demandé de révolution fiscale ou légale. Ça a demandé que des investisseurs nous fassent confiance pour se dire on peut faire de manière différente de l'immobilier.
Mais tu rachètes à qui en fait ces bureaux ? Ils appartiennent à qui vu qu'ils sont...
Très souvent à des propriétaires privés. Alors il y a tout type d'acteurs.
D'accord.
Il y a soit d'autres acteurs qui sont eux-mêmes qui gèrent des fonds immobiliers, okay. Qui ont des bureaux mais qui ne se louent plus. Soit, enfin, on a tout un tas des foncières, on a des propriétaires privés. Ils ont des locaux vides, mais bon, on en achète de plus en plus. On a une croissance, Novaxia est l'une des entreprises qui a le plus de croissance en France depuis 5 ans. On fait partie des 300 entreprises, tous secteurs confondus, qui ont la plus forte croissance. Donc, ça veut dire que ça marche et que l'impact que tu mets en lumière, que tu expliques à travers toutes ces émissions, bah, marche. La croissance de l'investissement de la part des épargnants est en train de prendre une ampleur sur l'impact qui est sans précédent. Et on voit à juste titre hein, nos impacts quotidiens. Je pense qu'on se rend de plus en plus compte qu'on peut faire attention comment on mange, comment on bouge, où est-ce qu'on vit. Et on va se rendre compte, petit à petit, on le voit, que l'argent, si on a la chance d'en avoir en épargne, a un impact en fait qui est immense sur le changement climatique, la biodiversité, la pénurie de logements. Et on croit que les Français adorent l'épargne immobilière. On aime investir dans l'immobilier. C'est une grande chance, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'immobilier qui va avoir un impact sur où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on dort, avec qui on est dans toutes ces occupations temporaires. Donc ça marche très bien. Pour faciliter ça, donc Joachim Hazan a décidé il y a plusieurs années déjà d'indexer une partie du salaire de tout le monde dans l'entreprise sur la RSE. Et donc c'était en 2016 déjà. Un tiers du variable de tout le monde, de l'assistant comptable, en passant par l'investisseur, enfin vraiment toutes les fonctions de l'entreprise, ont cet objectif commun de développer l'occupation temporaire, répondre à la pénurie de logements, développer le life science désormais, remettre de la biodiversité en ville, et donc tout le monde l'a en tête.
Et si des épargnants enfin, ou des particuliers nous écoutent, est-ce qu'ils souscrivent directement auprès de vous ou leur banque propose aussi vous avez des partenariats avec des banques pour
oui,
proposer ces fonds, je ne sais
c'est
pas.
C'est systématiquement intermédié, donc c'est soit via une banque, soit via
d'accord.
un assureur vie.
Donc on ne vient pas directement vers vous.
Non, exactement.
Ce sera, d'accord, c'est hyper important.
Et là, il y aura toute une éducation.
Mais est-ce
à
que c'est
faire.
Expliqué ou parfois simplement, on ne dit pas explicitement que c'est vous, mais quand on pilote notre épargne, on dit, bah là, ça va dans un fonds ESG et ça se trouve, vous êtes impacté.
Alors, très souvent...
Je parle de moi, alors, en fait, j'ai tout piloté en fonds ESG.
Ah, oui.
Je me dis, ça se trouve, ça a pu aller...
Il y a les deux.
OK.
Il y a les deux. Et à partir de septembre, et c'est une directive européenne qui va être en application, à partir de septembre, tous les conseillers de patrimoine sont obligés de poser la question, est-ce que tu souhaites de l'impact si l'objectif de rentabilité est là ? Avant, certains le faisaient, certains sont pionniers sur ça, d'autres ne l'avaient pas forcément en tête. Et à partir de septembre, ce sera obligatoire.
C'est bien.
Et qui va répondre non à « je souhaite de l'impact tout en maintenant un objectif de rentabilité ? » Alors, rien n'est garanti, mais on peut être normalement rentable et avoir de l'impact. Nos fonds, par exemple, sont dans la moyenne, voire au-dessus à chaque fois de la moyenne du marché. Et donc, on peut avoir de l'impact et un objectif de rentabilité. Et qui va répondre non à est-ce que tu veux associer les deux ? Surtout si tu es auditeur de l'empreinte,
après,
franchement.
Après, tu sais, il y a quand même, quand tu sais qu'il y a 50% de climato-sceptiques aux États-Unis, il y a toujours peut-être 50% de personnes qui n'ont pas envie d'avoir d'impact et qui disent non. Parce que, tu sais, il y a des gens qui sont hyper réfractaires. Hein.
Oui. Mais on
en parle tellement qu'en fait, il y en a qui ne veulent pas rentrer dans le.
Il y en a qui ne veulent pas rentrer, mais c'est là où parler économique. En parlant
ouais,
d'environnement.
C'est vrai. Tu vas te faire du pognon. Ah ouais, ok, ça peut le faire.
Est-ce que tu veux que ton projet soit accepté parce qu'on va mettre de la biodiversité et que les personnes qui vivent dans le logement seront plus heureux et donc vont avoir plus envie d'acheter
ouais.
le logement ?
Et si tu avais un mot de la fin pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Je pense que, vraiment, c'est possible.
Ouais.
C'est-à-dire de ne pas se dire qu'il faut attendre des révolutions technologiques, il faut attendre. Il y a plein de choses qui peuvent accélérer les tendances actuelles, mais tout est là. Tout est là. Et ça prend de l'ampleur, qu'on soit dans une entreprise d'ailleurs ou auprès d'un organisme public, il y a un mot-clé, c'est la coopération qu'on voit. On travaille, nous, avec des promoteurs immobiliers, avec plus de 70 promoteurs immobiliers. C'est la coopération qui nous permet d'avoir la meilleure connaissance du territoire, les meilleurs projets. La coopération avec les élus, les associations. et des mondes qui ne se parlaient pas hier, aujourd'hui se parlent et innovent. Et ça n'est pas quelque chose qui n'est qu'aux États-Unis, qui n'est que dans d'autres pays, c'est actuel. Et pour tout auditeur qui sera intéressé, on est très heureux d'ouvrir les portes de ces tiers-lieux ou des projets qu'on construit pour leur montrer l'impact réel que peut avoir leur épargne.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'être venu dans l'empreinte. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.